Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 21. Les deux robes rouges. Le personnage vêtu de rouge, qu'on appelait Monseigneur et son Éminence, et qui se tenait assis, tandis qu'autour de lui tout le monde restait debout, fit un geste pour maintenir à leur place les soldats servant de gardien au curé Marquis, et dit à ce dernier « Approchez !» Marquis s'avança d'un pas ferme et s'arrêta en face de l'homme rouge, devant lequel il se tint immobile et les bras croisés, sans arrogance, mais en même temps sans humilité. Il n'y avait là, en apparence, ni un captif, ni un maître, ni un vaincu, ni un triomphateur. Il y avait face à face deux hommes égaux qui ne pouvaient rien redouter ni rien attendre l'un de l'autre. Pendant quelques secondes, son Éminence considéra le curé Marquis avec une attention profonde. À travers ses paupières à demi baissées, jaillissait ce regard investigateur et en quelque sorte magnétique qui portait sa lueur jusqu'au fond des âmes et des consciences et rendait la vérité lumineuse dans les profondeurs où elle se cachait. Lorsque cet examen muet lui eut appris ce qu'il voulait savoir, l'homme rouge rompit le silence et dit de sa voix lente qui semblait égrener les paroles une à une « C'est vous qui êtes le curé Marquis ?»« C'est moi. »« C'est vous ?» continua l'homme rouge. « C'est vous qui êtes tout à la fois prêtre et soldat ?» C'est vous qui tenez le mousquet et l'épée de cette même main qui consacre la Sainte Hostie ? C'est moi, répondit de nouveau Marquis. Prêtre de l'Évangile, avez-vous donc oublié les paroles de l'Évangile ? Celui qui frappe avec l'épée périra par l'épée ? Je n'ai rien oublié. Je me suis souvenu. Pour chasser les vendeurs du temple, Jésus prit une corde. Contre la dévastation, l'incendie, l'assassinat, il fallait d'autres armes. Vous voyez que Dieu n'était point avec vous, puisque ces armes ont été vaincues. Vaincues ? S'écria Marquis avec un fier sourire. Qui dit cela ? N'êtes-vous pas captif ? Moi, oui, mais qu'importe ? Je ne suis pas le seul enfant de la vieille et noble province. Vous étiez du moins un de ses plus fermes défenseurs. Il en est d'autres qui me valent et qui valent plus que moi. Il en est d'autres qui donneront comme moi leur vie à la cause de la liberté. Ma tête tombera, qu'importe, il n'y aura qu'un homme de moins. La liberté est un arbre fécond qui grandit arrosé de sang. Moi mort, la liberté n'en sera que plus vivante. La liberté ? Répéta l'homme rouge. Vous parlez de la liberté ? Vous vous croyez donc libre ? Certes. Étrange et folle prétention. En quoi ? Vous repoussez la suzeraineté du roi de France ? Vous êtes vassaux du roi d'Espagne. Vassaux du roi d'Espagne ? C'est-à-dire que nous reconnaissons Philippe IV pour notre souverain ? Que nous lui payons un faible impôt ? Que nous lui envoyons quelques hommes ? C'est là un vassalage facile à supporter. Et cependant, le roi d'Espagne ne pourrait exiger de nous autre chose que ce qu'il nous plaît de lui accorder. Et pourquoi ne le pourrait-il pas ? Parce que nous avons des droits. Des droits incontestables et imprescriptibles, et que nous sommes prêts à donner pour les défendre la dernière goutte du sang de nos veines. Quels sont ces prétendus droits ? Savez-vous l'origine du nom de Franche-Comté que porte notre province ? L'homme rouge ne répondit pas. Marquis reprit après un silence. Si vous la connaissez, je vais vous la rappeler. Si vous l'ignorez, je vais vous l'apprendre. À la naissance du fils posthume de Louis le Bègue, Charles le Simple, le prince Boson, allié à plusieurs des membres de la descendance de Charlemagne, se révolta et se mettant à la tête du puissant parti que les parents et les amis de sa femme Ermengarde lui avaient ménagé, il provoqua une assemblée de seigneurs et d'évêques et le 15 octobre de l'an 879, il fut élu roi de Bourgogne. En 887, Boson mourut. Son fils Louis, qui lui succéda, était encore presque un enfant quand Rudolf Ier, fils du prince allemand Conrad, s'empara de la partie montagneuse située au nord des États laissés par Boson à son héritier. Le royaume de Bourgogne fut alors divisé en deux royaumes, distincts et indépendants l'un de l'autre. Le premier prit le nom de Bourgogne Transjurane. Le second prit celui de Bourgogne Cisjurane. Cette division ne fut point d'ailleurs de longue durée. Rudolphe II réunit les deux royaumes en un seul, et ceci dura jusqu'en 1126. À cette époque, la Bourgogne était gouvernée par Renaud II. Elle avait été, dans l'intervalle, érigée en comté. Renaud II refusa de reconnaître l'empereur pour son suzerain et préféra les chances de la guerre aux suggestions du vassalage. La lutte s'engagea et Renaud, après avoir repoussé toutes les attaques, conserva la libre possession de ses états. Comme il ne relevait de personne et qu'il s'était créé, par sa volonté et par sa force, souverain indépendant, il reçut le surnom de Franc-Comte et la province qu'il avait si bien défendue prit le nom de Franche-Comté. Nous sommes les descendants en ligne directe des hardis et heureux défenseurs de la Comté franche. Nous ne vaudrons pas moins que ne valaient nos pères. Jusqu'au dernier souffle du dernier homme, nous garderons intact l'héritage d'indépendance qu'ils nous ont transmis. » En disant ce qui précède, le curé marquis s'était animé peu à peu. Sa voix maintenant résonnait vibrante et sonore comme le clairon des batailles. Et tandis qu'il poussait son cri de liberté, ses regards devenaient étincelants, et son visage prenait une radieuse expression de fierté et d'enthousiasme. L'homme à la robe rouge l'avait écouté et le regardait avec une sorte d'admiration étonnée. Voilà donc quel était ce prêtre-soldat qu'on lui avait dépeint jusqu'alors comme un paysan presque brut, malgré son exaltation, comme un grossier et aveugle fanatique. Et cet homme était un profond penseur, un savant, un apôtre. Il marchait droit au but sous le drapeau d'une idée grande et sainte. Il avait l'éloquence de la parole, l'éloquence du geste, l'éloquence du regard. Le curé marquis put lire sans peine sur tous les visages l'impression profonde qu'il venait de produire. Il ne voulut pas lui laisser le temps de s'affaiblir, et il reprit. « Oui, la comté est franche, elle est libre, elle veut rester libre. La liberté, depuis 500 ans, n'est-elle pas le but unique de ses efforts ? Souvent ensanglanté? Avez-vous perdu le souvenir des luttes mémorables des comtes de Bourgogne contre l'inféodation impériale sous Frédéric Barberousse? Ne vous souvient-il pas que sous Philippe le Bel on força les seigneurs à accepter l'appel au Parlement de Dôle contre les sentences et les arrêts rendus par leurs baillis seigneuriaux? L'existence du Parlement n'est-elle pas d'ailleurs la plus irrécusable preuve de notre indépendance? Le Parlement est notre force morale, c'est notre bouclier. Nous nous abriterons derrière lui et nous le défendrons jusqu'à la mort, dans l'avenir, comme nous l'avons déjà défendu dans le passé. En 1336, la noblesse voulut lui dicter des lois au lieu d'en recevoir de lui. La noblesse fut vaincue. L'autorité judiciaire, pouvoir immuable, l'emporta sur les épées sorties du fourreau. Jean de Châlons, dépouillé de ses fiefs et chassé de la comté franche. Jean de Grandson, étranglé comme traître. Voilà de grands et terribles exemples de la justice parlementaire. Et qui sait si ces exemples ne se renouvelleront pas bientôt? Et qui sait si bientôt on ne verra pas tomber des têtes quand on aura arraché le masque? Ces dernières paroles, accompagnées d'un regard chargé de mépris et de menaces, arrivèrent comme la lame aiguë d'un poignard, droit au cœur d'Antide de Montaigu, qui pâlit involontairement sous son masque de velours. Après un silence d'une seconde, le curé marquis reprit en s'adressant à l'homme rouge. Faut-il vous rappeler ce que le Parlement a fait pour la province? Faut-il vous redire comment, à toutes les époques, il a su mériter le dévouement et la reconnaissance du pays? Lorsque l'ouverture de la succession de la maison d'Autriche mit entre ses mains le pouvoir politique absolu, ne s'est-il pas servi de sa puissance pour rendre plus heureux le sort des bourgeois et celui des manants? N'a-t-il pas lutté avec une égale vigueur et contre ces monstrueux héritiers des réformateurs et contre le fanatisme intolérable de Philippe II? Le Parlement de Dôle n'est-il pas à la fois notre gouvernement, notre loi et notre justice? Ne défend-il pas le peuple contre les gentilshommes? Ne défend-il pas les gentilshommes contre les grands seigneurs? Le peuple est pour lui, la noblesse est pour lui, et toutes ces masses réunies forment un faisceau que nulle force humaine ne saurait briser. Nous sommes les vassaux de l'Espagne, disiez-vous il n'y a qu'un instant? Est-ce que nous appartenons à l'Espagne? Est-ce que nous sommes espagnols? Est-ce que nous avons adopté les mœurs, les coutumes, le langage, les lois de l'Espagne? Non. Non, 100 fois non. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple libre. Nous n'obéissons qu'à nos lois. Nous nommons nous-mêmes les membres du Parlement qui nous gouvernent. Le joug prétendu de l'Espagne, dernier vestige d'un principe féodal qui s'éteint, n'est qu'un mot, une apparence vaine. La réalité de ce joug n'existe pas. Nous briserions la chaîne si nous en sentions les anneaux. L'Espagne est loin de nous. Son influence ne peut nous atteindre. La France nous touche. Elle nous aurait bien vite enveloppés dans ses vastes frontières. Nous pouvons accepter la protection d'un roi. Nous pouvons l'acheter même par un tribut et par un serment. Mais nous ne voulons pas de maître, et nous n'en subirons jamais. L'Espagne nous défend, vive l'Espagne. La France veut nous asservir, guerre à la France, et guerre éternelle s'il le faut. Le curé marquis se tut. Et, dit l'homme rouge après un silence, si l'Espagne vous abandonne, que ferez-vous? Nous nous défendrons seuls. Nous n'en appellerons qu'à Dieu et qu'à nos épées. Si Dieu se retire de vous, et si vos épées sont impuissantes, nous trouverons une tombe glorieuse sous le dernier rocher de nos montagnes héroïquement défendue. Et la France victorieuse aura conquis, non pas une province, mais un sépulcre. Et de toutes parts, les ossements blanchis se lèveront pour crier contre elle. Acceptant avec la résignation d'un chrétien et d'un prêtre le sort qui l'attendait, Marquis, à partir du moment où il avait été fait prisonnier par les gris, savait bien qu'il ne lui restait aucune espérance de salut. Depuis le commencement de l'invasion, les prisonniers de guerre avaient été fusillés impitoyablement par les Français et par les Suédois. La terrible sincérité de l'histoire nous force à enregistrer ces actes d'inutile cruauté. Le passé répondait donc de l'avenir, et le prêtre-soldat savait que son arrêt de mort était prononcé d'avance. Cependant, au moment où il franchissait le seuil de la grande salle du château de Bletterand, il était bien loin de prévoir quel rôle magnifique le hasard, ou plutôt la volonté de l'homme rouge, lui réservait. Certes, l'attitude que nous venons de lui voir prendre vis-à-vis de son interlocuteur était le résultat d'une conviction profonde. Chacune des paroles qu'il venait de prononcer s'échappait d'une âme ardente et sincère. Ce qu'il venait de dire, il le pensait, et plus d'une fois il avait versé son sang pour le soutenir. Mais peut-être aussi aurait-on pu trouver un autre motif à cette fière attitude. Peut-être, avant de mourir, Marquis voulait-il rendre un dernier service à la cause de sa province, en donnant à ses ennemis une preuve suprême de cette résistance énergique, inflexible, que rien ne pourrait dompter et qu'il rencontrerait jusqu'au bout. Peut-être voulait-il que l'homme rouge en arrivât à se dire « Ces têtes hautaines ne plairont point. Il faudra les abattre toutes. » Et qu'il recula d'horreur devant la nécessité de cette effroyable tâche. Toutes ces idées, du reste, exposées par lui avec une si fougueuse audace, avaient trouvé de l'écho dans plus d'un cœur, bien qu'elles fussent en opposition directe avec les intérêts de tous les auditeurs. Il y avait là des Français, des soldats, des gentilshommes, des hommes enfin, animés à ce triple titre de cet esprit chevaleresque qui semble parfois s'endormir, mais qui ne meurt jamais tout à fait. Les nobles élans d'une âme si grande et si généreuse ne pouvaient passer inaperçus devant eux. À la surprise succéda le respect, presque la sympathie. Sans la présence de l'homme rouge, plus d'une main peut-être se fût tendue vers le prêtre-soldat pour saisir et serrer la sienne. Mais parmi ces Français, ces soldats, ces gentilshommes, il y avait un franc-comtois, il y avait un lâche, il y avait un traître. Antide de Montaigu reniait et vendait sa province, ainsi que Judas Iscariote avait renié et vendu son Dieu. Aussi, chaque parole du curé marquis tombait sur le cœur du seigneur de l'Aigle comme une goutte de plomb fondue. Le misérable sentait son masque se soulever et les implacables lanières de la honte et du déshonneur le fouetter publiquement au visage. Une rage sourde et d'autant plus violente qu'elle était contenue débordait en lui. La sueur ruisselait sur son front. Il aurait voulu s'élancer sur le prêtre, l'étrangler de sa main, ou trancher à la fois d'un coup de poignard sa parole et sa vie. Mais la présence de l'homme rouge faisait aussi bien obstacle aux manifestations de sa haine qu'à celle de la sympathie des officiers français. Le respect le clouait sur place, et sa fiévreuse et impuissante colère était la première épine de cette sanglante couronne que l'avenir devait attacher à son front. Après la dernière réponse du curé marquis, l'homme rouge, comme écrasé par la grandeur de cet héroïsme qui se manifestait si simplement, baissa sur sa poitrine sa tête brune et pâle, et pendant quelques secondes, sembla s'absorber dans une profonde rêverie. Marquis, toujours calme, les bras croisés, les joues colorées légèrement par la vivacité de sa parole, le regardait avec une sorte de sourire. L'homme à la robe rouge releva lentement la tête, et posant avec noblesse son coude sur l'accotoir de son haut fauteuil sculpté, appuya sa joue sur sa main et croisa son regard avec le regard de Marquis, qui ne baissa point les yeux. Tous les spectateurs de la scène que nous racontons attendaient avec impatience et avec anxiété les premiers mots qui s'échapperaient de ses lèvres minces et mobiles. Le curé, lui, semblait moins ému que ses auditeurs désintéressés. Et cependant, sa vie était en jeu, et son arrêt, sans doute, allait être prononcé. L'homme rouge trompa toutes les prévisions. Au lieu de parler en maître et en juge, il voulait discuter encore. Il dit d'une voix de plus en plus lente, tandis que son regard fixé sur le visage du prêtre semblait y guetter les impressions fugitives. « Vous criez guerre éternelle à la France et à son roi, parce que la France vous envelopperait dans la ceinture de ses frontières agrandies, et parce que son roi deviendrait pour vous un maître. La politique de Louis XIII devrait cependant vous être une garantie, ce me semble, que vos droits seraient respectés. » « Une garantie ? » répéta le prêtre. « En quoi ? » Louis XIII ne suit-il pas dans son propre royaume une marche absolument pareille à celle du Parlement dans votre province ? » L'homme rouge s'arrêta. « Je ne vous comprends pas, » dit Marquis. L'homme rouge poursuivit. « Le Parlement de Dôle, ce sont vos propres paroles, protège le peuple contre les gentilshommes, et les gentilshommes contre les hauts seigneurs. Louis XIII fait-il donc autre chose en abaissant chaque jour l'orgueil de ceux qui se croient encore les grands vassaux de la couronne ?» Le curé ne répondit que par un sourire. « Ne m'avez-vous donc point compris ?» demanda l'homme rouge. « Ne parlons pas de Louis XIII, je vous en prie !» s'écria Marquis. « Pourquoi ?»« Parce que Louis XIII n'existe pas, et vous le savez mieux que moi. » L'homme rouge tressaillit. « Non, » poursuivit le prêtre soldat, « ne parlons pas du roi de France, mais si vous le voulez, parlons du cardinal ministre, parlons de Richelieu. » « Oui, j'en conviens. L'éminence rouge, achevant l'œuvre commencée de Louis XI, fauche hardiment et infatigablement les trop hautes têtes de la noblesse de France, établissant ainsi un niveau que la couronne seule domine. Le roi de Plessis-les-Tours, l'ami de Tristan l'ermite et d'Olivier le Dain, marchait tortueusement au but où le poussait son intérêt propre. Il écrasait tout ce qui, s'élevant trop près du trône, lui portait ombrage. Les grands tombèrent. Et comme en toute chose le bien est à côté du mal, les petits profitèrent de ces chutes. Les temps sont bien changés depuis lors. Aujourd'hui, Richelieu, grand ministre d'un monarque dont la couronne est une ombre, n'a plus à combattre un duc de Bourgogne insolemment roi dans son propre royaume. Mais il a à renverser les trop hautes puissances de la cour. Lui aussi, il établit le niveau de Louis XI. Lui aussi, dans cette forêt humaine, il abat les hautes cimes, les arbres séculaires, et donnant aux rejetons de l'espace, de l'air, du soleil, il leur permet de vivre et de grandir. Là aussi, la cognée du bûcheron frappe les grands au profit des petits. Mais ce profit tient-il une place dans les projets, dans les volontés, dans les rêves du ministre? Il m'est permis de ne pas le croire. Louis XI faisait le niveau dans l'intérêt de son trône. Richelieu imite cet exemple dans l'intérêt de son ambition sans bornes et de son immense orgueil. L'homme rouge sourit à son tour, sans répondre. Au moment où Marquis prononçait les mots d'ambition sans bornes et d'immense orgueil, le duc de Longeville, le marquis de Villeroy et le marquis de Feuquières prirent un air menaçant et portèrent la main sur la garde de leur épée. Le prêtre soldat se tourna vers eux. « Eh, messire, leur dit-il, laissez en paix vos épées. Vous êtes de trop bons gentilshommes pour frapper un ennemi qui ne peut se défendre. » Et vous ne voudriez point d'ailleurs usurper les privilèges du bourreau qui va me pendre dans un instant. puis il ajouta en désignant du regard et du geste Antide de Montaigu. « Si cependant vous êtes jaloux d'en finir plus vite avec moi, donnez non pas une épée, mais un couteau à ce seigneur masqué. Le métier de bourreau est digne de lui. »« Insolent !» s'écria le seigneur de l'aigle. « Silence !» murmura à voix basse Homme-Rouge en faisant un signe au marquis de Feuquières. Ce dernier fit signe à son tour à un officier placé près de la porte du fond. L'officier sortit. On entendit presque aussitôt une sonnerie de trompette et l'on vit entrer un page de 15 à 16 ans, joli comme une femme, somptueusement vêtu, précédé de 2 clairons et suivi de 8 gardes. Le page portait sur son bras gauche replié un coussin de velours écarlate galonné d'or. Une enveloppe entourée d'un ruban de soie rouge et scellée d'un large sceau était posée sur le coussin. Les clairons et les gardes s'arrêtèrent. Le page s'avança seul jusqu'auprès du personnage assis, et mettant un genou en terre devant lui, il commença. Mais il n'eut pas le temps d'achever. Le curé l'interrompit, et reprenant la phrase qu'il venait de couper, il dit d'une voix nette et haute « Pour son éminence, monseigneur, le cardinal de Richelieu !»« Quoi ?» s'écria le cardinal. En effet, c'était bien lui. « Vous saviez ?» Marquis s'inclina profondément. « Oui, monseigneur, » dit-il ensuite. « Qui donc vous avez dit ?»« Personne. Mais comment aurait-il pu m'être possible de ne pas deviner ?»« Le bruit de votre arrivée ne s'est pas encore répandu dans nos montagnes, monseigneur. » Et cependant, en entrant dans cette salle, je n'ai pas eu un moment de doute. Devant quel autre que vous, les généraux français, courberaient-ils la tête aussi bas? D'ailleurs, ajouta le curé avec ironie, ne portez-vous pas un vêtement qui dit bien haut que vous êtes arrivé au rang le plus élevé de la hiérarchie ecclésiastique et qu'au-dessus de vous, il n'y a que le pape et Dieu? Richelieu, si complètement maître de lui jusqu'alors, pâlit de colère en ce moment. Prêtre! Murmura-t-il. Prenez garde. À quoi, monseigneur ? Demanda Marquis. L'attention profonde accordée au prêtre soldat par le cardinal pendant tout l'entretien qui précède avait un double motif. Le premier résultait de l'étonnement éprouvé par lui en trouvant un homme supérieur, presque un homme de génie, dans ces sauvages et rudes montagnes. Le second venait de la vanité même du grand politique, flatté de la justesse de coup d'œil avec laquelle Marquis avait pénétré dans sa pensée et deviné le but véritable de ses ambitions. L'incroyable rectitude des jugements du prêtre en avait fait passer la sévérité. Mais voici que Marquis venait de mettre le doigt sur la plaie sanglante en raillant le haut caractère des dignités religieuses dont était revêtu le ministre. La franchise avait plu d'abord. Maintenant, elle blessait douloureusement. « À quoi faut-il prendre garde, monseigneur ?» répéta le prêtre. « Qu'ai-je à craindre ? Ne sais-je pas que la mort m'attend et que je ne lui échapperai point ? Qu'importe que mon corps lui soit jeté en pâture quelques minutes, plus tôt ou plus tard ? Les grands de ce monde accordent une grâce à celui qui va mourir. Je réclame de vous, comme faveur suprême, le droit de parler jusqu'au bout. Je parlerai brièvement, monseigneur, et je vous jure de ne rien dire qui ne soit juste et qui ne soit vrai. » Le cardinal avait eu le temps de prendre sur lui-même et de dominer son premier mouvement. « Parlez, » répondit-il, plutôt du geste que de la voix. « Merci, monseigneur, » dit le prêtre. Et il poursuivit. « La France veut la Franche-Comté ? Mais emploie-t-elle le bon moyen pour conquérir et pour conserver ? Est-ce en accablant une province sous le poids de tous les malheurs, de toutes les misères, de tous les fléaux qu'on s'y fait des partisans ? Et qu'on s'y ménage des sympathies ? Est-ce notre faute, à nous, si les noms seuls de Français et de Suédois sont pour la montagne tout entière un objet d'épouvante et d'exécration ? Vous voulez faire de la comté une chose à vous, et vous dépeuplez le pays par le fer et par la famine. Vous le ruinez par le pillage et l'incendie. Jamais, dans leurs barbares invasions des siècles passés, jamais les Huns ni les Vandales ne sont allés si loin que vous. Demandez à vos généraux, monseigneur, de quelle façon ils comprennent la guerre. Mais ils ne vous répondront pas. Eh bien, puisque les voilà devant vous et devant moi, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Et s'ils l'osent, ils me démentiront. Le duc de Longeville et messieurs de Villeroy et de Guébriant firent un pas en avant et voulurent imposer silence à Marquis par un geste impérieux. « Monseigneur, demanda le prêtre au cardinal, dois-je parler ou dois-je me taire ?»«
Parlez, dit encore Richelieu.
Marquis continua. « Sont-ils des démons vomis par l'enfer, ou sont-ils des hommes, des enfants de Dieu, ces généraux qui comptent la vie des hommes pour quelque chose de moins que rien ? A-t-il un cœur, ce duc de Longeville, qui, après avoir triomphé en 1637 de l'héroïque résistance de Poligny, saccage et brûle la ville conquise, et passe au fil de l'épée tous ses habitants, tendant vainement leurs mains suppliantes et demandant grâce au vainqueur ? A-t-il une âme, ce marquis de Villeroy, qui, forcé de lever le siège de Salins et furieux de ce revers, vient s'abattre devant Dôle et fait faucher pendant 15 jours les blés verts sur les bords du Doubs ? Ce Villeroy qui rase le château de Virechâtel pour se venger de l'héroïsme du colonel César du sexe d'Arnan, brûle les 5 villages de la baronnie, incendie les châteaux de la Villette et du Frétignet, qui contenaient pour plus de 20 000 écus de grains ? Le feu et la famine, voilà les armes de ces illustres chefs. Qu'ils soient maudits et que l'histoire cloue leur nom à son pilori.
Au nom du ciel, monseigneur, s'écria Longeville, que votre éminence daigne imposer silence à cet homme.
A-t-il menti ? Demanda le cardinal avec dignité. Le duc ne répondit pas.
Qu'il continue, fit Richelieu.
Merci, monseigneur, répéta le prêtre, et il reprit.
Vous vous irritez, messire ? Et cependant, je ne dis que la vérité, et je n'ai pas fini de la dire, car je n'ai pas encore retracé les hauts faits de tous. Vous avez un émule, messire, vous avez un rival. Qu'en pensez-vous, comte de Guébriant, et croyez-vous que je vais calomnier votre maître, le duc de Saxe-Weimar, qui déjà s'intitule le roi du Jura, et qui n'attend que la fin de la guerre pour faire de la comté un royaume à part qu'il disputera à la France ?
Que dites-vous ? Demanda vivement le cardinal en se soulevant à demi, tandis que ses yeux lançaient des éclairs.
« Il en a menti, monseigneur !» s'écria Guébriant avec fureur. « Monseigneur, ne le croyez pas !»
Le curé marquis s'avança lentement jusqu'auprès du comte, et plongeant son regard dans ses yeux avec une étrange expression de puissance et de commandement, il lui dit
« Répétez donc que j'en ai menti !»
Guébriant courba la tête et se tut. « Il y a là, murmura Richelieu, il y a là un mystère que nous éclaircirons plus tard. Maintenant, messieurs prêtres, articulez vos griefs contre le comte de Guébriant et contre son maître. Écoutez donc, monseigneur, et soyez sûr que cette fois, il ne me criera pas que j'en ai menti. Un soir, le duc et le comte, le maître et le valet, le futur roi du Jura et le colonel, exaspérés par l'héroïque résistance d'une poignée de braves gens, qui avait juré de mourir plutôt que de se rendre, et désespérant de s'emparer de Salins et de Besançon, levèrent le siège de Salins et se dirigèrent vers Pontarlier. La nuit tombait, et l'obscurité sans doute amenait la terreur avec elle. Savez-vous comment firent ces hommes pour éclairer leur marche ? Néron, jadis, l'empereur infâme, faisait allumer dans ses fêtes, torches vivantes, des chrétiens et des esclaves enduits de résine et de poix. Weimar et Guébriant dépêchèrent en avant des éclaireurs avec l'ordre d'embraser tous les villages. Cet ordre monstrueux fut exécuté. L'incendie prit de telles proportions que pendant cette horrible nuit, depuis le fort de Sainte-Anne et depuis les hauteurs de Nozeroy, on put voir les flammes implacables qui dévoraient plus de 200 rameaux. Le Suédois et le Français traversèrent la comté sous cette flamboyante auréole. Et ils commencèrent leur œuvre d'enfer en brûlant aussi Pontarlier, qui peu de jours auparavant avait cru se racheter du feu en leur payant une somme énorme. Voilà ce qu'ils ont fait, monseigneur. Le curé marquis avait prononcé tout ce qui précède d'une voix vibrante et indignée. Mais maintenant le souvenir de ces actes monstrueux qu'il retraçait remplissait son âme d'une douloureuse et irrésistible émotion. Ce fut donc d'une voix tremblante et avec les yeux pleins de larmes qu'il continua. Pauvre province, autrefois si belle, voilà ce qu'elle est devenue, un amoncellement de ruines fumantes, partout la dévastation, partout la famine,
Les défenseurs des villes n'ont pour se nourrir que le blé insuffisant, semé sous les remparts dans un rayon égal à la portée du canon. La terreur a gagné jusqu'aux animaux. Au seul bruit du tocsin, le bétail s'enfuit et se cache. Pauvre comté, ton dernier jour est-il donc venu? Oh, mon seigneur, grâce pour un malheureux pays épuisé, presque anéanti. Désormais, sa conquête est indigne de vous. Richelieu, immobile, l'œil fixé sur le prêtre-soldat qui lui parlait, conservait une physionomie impassible et impénétrable. Si vous considérez comme indigne de nous la conquête d'une province épuisée, pourquoi verser la dernière goutte du sang de votre dernier homme pour conserver cette province ? Demanda-t-il enfin. Eh, monseigneur, des fils doivent-ils donc abandonner leur mère parce que leur mère est mourante ? Ils doivent chercher à la sauver. La sauver, monseigneur ? Comment ? En venant enfin à nous qui saurions fermer les blessures que nous avons ouvertes et rappeler à la vie la province expirante. Nul autre parti ne s'offre à vous, et rien ne peut vous empêcher d'accepter celui-là. Rien, dites-vous, monseigneur ? S'écria Marquis. Rien ? Et nos serments ? La lèvre supérieure de Richelieu se contracta. Vos serments à l'Espagne ? Fit-il avec une ironie mal contenue. Cette ironie rappela Marquis au sentiment de sa situation et lui rendit cette colère que depuis quelques instants l'émotion avait remplacée. « Pardonnez-moi, monseigneur, » dit-il avec un sourire plein d'amertume. « J'oubliais qu'il ne fallait point vous parler de la religion du serment à vous qui ne la comprenez pas. À vous qui ne vous souvenez point du passé, qui oubliez le présent dès qu'il vous est acquis, qui ne voyez jamais que l'avenir, et dans l'avenir le but auquel vous tendez et auquel vous voulez arriver par tous les moyens, quels qu'ils soient. Vous êtes catholique, monseigneur, vous êtes prêtre, vous êtes cardinal, et cependant vous faites des traités avec Gustave, chef de la Confédération germanique, et des protestants d'Allemagne, et vous envoyez à son aide les troupes du roi très chrétien. C'est de la haute politique, sans doute, qu'une semblable alliance. Mais cette politique est-elle bien d'accord avec les lois de la Cour de Rome, à laquelle vous avez juré soumission et obéissance? Richelieu, muet, immobile, attentif, écoutait toujours. Son visage semblait impassible. Rien ne venait indiquer qu'il eût à soutenir en ce moment un combat contre lui-même. Les généraux ne savaient de quoi ils devaient s'étonner le plus, de l'audace du curé marquis ou du calme de son éminence. Le prêtre poursuivit. « Je le répète, monseigneur, vous ne voyez que le but et vous n'avez jamais reculé devant les moyens. » Marillac, décapité. Montmorency, décapité. Chalais, décapité. Et tant d'autres qui ont payé de leur tête l'impardonnable tort d'avoir entravé votre route sont des preuves sanglantes de ce que j'avance. Le salut de l'État vous paraît attaché à la conservation de votre pouvoir. Et peut-être avez-vous raison. Peu à peu, et à mesure que vous vous identifiez de plus en plus avec votre rôle de souverain, vous dépouillez votre maître et votre roi de ses prérogatives les plus belles. Aujourd'hui, le petit-fils de Saint-Louis et de Henri IV n'a plus le droit de grâce. Louis XIII lui-même, enfin, n'est dans vos mains qu'un espion qui vous dénonce et qui vous livre vos ennemis. Voilà les moyens que vous employez, monseigneur. Mais j'en conviens, le but est sublime, et vous l'atteignez parfois. Vous avez compris qu'il fallait abaisser les grands devant la couronne et réduire la puissance de la maison d'Autriche. C'était une tâche rude et difficile. Vous l'avez acceptée et vous l'avez menée à bien, sans autre auxiliaire que votre propre génie. Car vous ne pouviez regarder comme un appui ce roi Louis XIII, dont la faiblesse même devait d'un moment à l'autre vous faire redouter une disgrâce. Vous marchez en avant d'un pas ferme malgré les obstacles. Les princes du sang s'arment contre vous. Vous les brisez et vous écrasez leurs complices. Vous foulez sous vos pieds l'incessante opposition de la reine-mère, les renaissantes cabales du duc d'Orléans. Vous abattez tout ce qui vous gêne. Si la route vous semble trop étroite, vous l'élargissez, et c'est avec des têtes qui tombent que vous en comblez les ornières. Mais qu'importe, tout cela, le bien et le mal, est l'œuvre d'un grand homme. Louis XIII, grâce à vous, est le second dans la monarchie. Mais grâce à vous aussi, Il est le premier dans l'Europe. Vous abaissez le roi, vous élevez le règne. » Un imperceptible frémissement des paupières de Richelieu fut le seul témoignage physique de l'immense joie que donnaient à son orgueil les appréciations si brutalement sincères du curé marquis. Ce dernier reprit. « Il ne me reste que bien peu de mots à ajouter, monseigneur. Ces mots résumeront ma pensée en ce qui nous touche plus particulièrement. La guerre que votre ambition est venue déclarer à notre malheureuse province est une guerre inique et cruelle. Une troupe de loups affamés, lâchés dans une bergerie, y ferait de moins grands ravages que ceux apportés parmi nous par vos soldats et par ceux qui les commandent. Comme franc-comtois et comme l'un des chefs de la montagne, je vous hais, monseigneur. Comme homme, je suis forcé de vous admirer et de vous déclarer grand. » Marquis se tut. Richelieu, pendant un instant, resta silencieux, pensif, la tête inclinée. Tous les auditeurs de la longue scène que nous venons de raconter s'étonnaient de ce silence. Le cardinal le rompit enfin. « Prêtre, dit-il, votre vie est entre mes mains. Je le sais, monseigneur, et je sais aussi ce que vous allez en faire, et depuis le moment où je suis devenu prisonnier, mon âme se tient prête à paraître devant Dieu. Si je vous laissais vivant et libre, pourtant... » « Vivant et libre ? » répéta Marquis. « Oui, que diriez-vous ? » « Je dirais, monseigneur, que vous avez un but en agissant ainsi, et que je veux connaître ce but. Car si la grâce faite à moi devait tourner au détriment de la province, je n'accepterais pas. Ainsi vous repousseriez mes offres. » Marquis regarda fixement le cardinal. « Monseigneur, lui dit-il ensuite, je vous reconnais le droit de m'envoyer au supplice, mais je vous conteste celui de m'insulter. » Richelieu se leva. « Prêtre, fit-il, je vous laisse maître de votre sort. Comment voulez-vous être traité ? Comme votre égal, monseigneur. » « Mon égal ? Répéta Richelieu avec étonnement. « Vous êtes un des rois de la France. Je suis un des rois de la montagne. Nous sommes prêtres tous deux. Vous êtes cardinal, il est vrai, mais voyez, ne dirait-on pas que nous sommes égaux, même devant l'Église ? Ma robe est rouge, comme la vôtre. » « Et cette robe rouge ? S'écria le cardinal. « Pourquoi la portez-vous ? Pourquoi cette parodie coupable du costume des plus hauts dignitaires ecclésiastiques ? Quand on vous a parlé de moi, monseigneur, ne vous a-t-on jamais parlé de cette robe ? On m'a répété de superstitieuses légendes, d'absurdes croyances auxquelles je ne pouvais ajouter foi. On vous a dit, n'est-ce pas, que la robe rouge était un talisman ? Oui. On vous a dit que sur son étoffe écarlate rebondissaient les balles des mousquets et s'ébréchaient les rapières les mieux trempées. On m'a dit cela. On vous a dit enfin que sous les plis de sa robe rouge, le curé marquis était invulnérable, et que les montagnards marchaient plus joyeusement au combat, certains d'être guidés par un chef que nulle blessure ne pouvait atteindre. Eh bien, tous ces bruits insensés, monseigneur, ce n'est pas moi qui les ai répandus, mais c'est moi qui les ai laissés s'accréditer. Dans quel but ? Marquis, d'un mouvement brusque, saisit un poignard à la ceinture de Monsieur de Feuquières, qui se trouvait à côté de lui, et avec la pointe de cette arme, il fendit dans toute sa longueur la manche gauche de sa robe. Les Français, qui n'avaient compris que le premier des deux mouvements du prêtre-soldat, crurent qu'il en voulait à la vie du cardinal, et s'élancèrent pour le retenir. Mais déjà, il avait jeté loin de lui l'arme dont il venait de se servir, et il montrait à Richelieu son bras nu. La blessure, faite le matin devant le château de Verges, par l'infâme brutalité de l'un des gris, saignait toujours. « Regardez, monseigneur, dit-il, le sang coule, et nul ne le sait. Le sang est pourpre comme le vêtement dont il ne change pas la couleur. Voilà comment le curé marquis est invulnérable. Voilà le secret de la robe rouge. » Le cardinal baissa les yeux, et ses narines mobiles, tout à coup dilatées, indiquèrent qu'il venait de recevoir une violente commotion intérieure. Un cri d'admiration s'était échappé de toutes les poitrines en face de ce mâle courage, de cette stoïque vertu que rien ne pouvait ébranler. En présence de cet homme, qui, semblable aux héros si vantés des grands siècles de Rome, considérait la douleur comme un vain mot. Cet enthousiasme, trop franchement manifesté, déplut sans doute à son éminence, dont les sourcils épais se plissèrent. Les gentilshommes frissonnèrent, comme si le vent d'une prochaine disgrâce eût passé sur eux, et ils prirent un air confus et morne. Pendant quelques minutes, tous les visages exprimèrent la consternation. Le cardinal était toujours pensif, le curé marquis toujours impassible. Richelieu rompit enfin ce silence pesant. « Messire, dit-il en arrêtant successivement sur chacun des officiers son regard circulaire, il faut que justice soit faite. Nous avons devant nous un rebelle, fait prisonnier les armes à la main. Nous allons prononcer contre lui la peine qu'il mérite. Mais nous voulons auparavant nous éclairer de vos lumières et vous demander à tous ce que doit être cette peine. Parlez le premier, duc de Longeville. « Votre éminence me fait l'insigne honneur de me demander mon avis ?»«
Oui. »«
Je n'en ai pas d'autre que celui de votre éminence. »« Je pourrais me tromper, et votre éminence est infaillible. »« Et vous, marquis de Villeroy ?»«
Mon opinion est de tout point conforme à celle du duc de Longeville. »«
Et vous, marquis de Feuquières ?»«
C'est ma pensée intime et profonde que le duc et le marquis viennent d'exprimer en même temps que la leur. »
Le regard du cardinal dut se baisser en ce moment sous celui de marquis, tant les yeux du prêtre-soldat exprimaient clairement le profond mépris que lui faisait éprouver la bassesse des trois seigneurs. « Il a raison, pensa le ministre. Ces hommes n'osent pas même avoir une opinion devant moi. » Puis il continua et s'adressant à Guébriant, il lui dit « Et vous, comte, avez-vous un avis ?»«
Oui, monseigneur. »«
Ah ? » fit Richelieu.
« Votre éminence, continua Guébriant, me permet-elle de parler avec franchise ?»«
Non seulement je vous le permets, mais encore je vous l'ordonne. »«
Eh bien, monseigneur, je ferai grâce. »«
Ah ? » répéta Richelieu. À ce mot de grâce, prononcé d'une façon tellement inattendue, les regards des trois gentilshommes se tournèrent avec stupeur vers celui qui venait de faire preuve d'une aussi formidable audace. Véritablement, ils ne pouvaient en croire leurs oreilles, ni se persuader que le comte eût parlé sérieusement. Un jet de flamme sembla s'élancer des trous du masque d'antique de Montaigu. Une sorte de frémissement vague, de murmure d'admiration mal contenu, s'échappa de la petite troupe des gardes du cardinal. Le caractère, le courage, la hardiesse du prêtre-soldat les avaient fascinés. « Comte de Guébriant, s'écria Marquis, vous servez un mauvais maître, mais vous êtes un ennemi généreux. » Il ne restait plus que le seigneur de l'Aigle à interroger. Richelieu se tourna vers lui et lui demanda « Et selon vous, messire, quelle peine mérite le prisonnier ?»«
La mort, répondit Antide d'une voix gutturale.
« Et quel supplice ?»«
Celui des manants, la corde. »
« Et après avoir rendu l'arrêt, vous chargeriez-vous de l'exécuter ?»«
S'il le fallait, oui, monseigneur. »
Le cardinal détourna les yeux. L'infamie du seigneur de l'Aigle faisait honte et faisait horreur à ceux-là même qui profitaient de cette infamie.
« Que ce prêtre soit conduit dans la chapelle, reprit Richelieu au bout d'un instant, et qu'il reste libre d'y prier et de s'y préparer à la mort.
« Seigneur mon Dieu, murmura Marquis en sortant au milieu de ses gardes, j'accepte votre volonté et je la bénis. »
Deuxième partie, chapitre 22. Les deux moines. Tandis que se passent, dans la grande salle du château de Bletterans, les événements que nous venons de raconter, tandis que le curé marquis, prisonnier de Richelieu, triomphe en quelque sorte du grand cardinal, par l'ascendant de son héroïsme, transportons-nous sur cette même route par laquelle étaient arrivés, quelques heures auparavant, les gris qui formaient l'escorte du prisonnier. Deux hommes, deux moines, suivaient rapidement cette route et se trouvaient déjà à une assez grande distance du village de Beaufort. Ils portaient l'un et l'autre le simple et sévère costume des bons religieux de l'abbaye de Cuzeau, c'est-à-dire une robe de grosse laine grise, longue et large, dont le capuchon pouvait se rabattre sur la tête et cacher presque entièrement le visage. La robe était serrée à la taille par une corde tenant lieu de ceinture et dont les bouts flottants, terminés par un nœud, tombaient jusque sur les pieds qui n'avaient d'autres chaussures que des sandales à forte semelle. Chacun des moines tenait à la main un long bâton noueux, fraîchement coupé sans doute dans la haie qui couronnait quelque fossé ou sur la lisière de l'un des bois qu'ils venaient de traverser. L'un d'eux était un vieillard. Autant que permettait d'en juger son capuchon rabattu, il avait une de ces têtes magnifiques et vénérables dont les pinceaux de Michel-Ange et du Dominicain ont souvent reproduit le type. Des rides nombreuses et profondes sillonnaient son visage et témoignaient de toute une vie de jeûne, de veille, d'austérité, de macération. Une de ces immenses barbes blanches, dont la tradition s'est perdue, une de ces barbes évidemment vierges de tout contact avec les ciseaux ou le rasoir, ruisselait comme un flot d'argent jusqu'au milieu de sa poitrine. Quelques mèches de cheveux, blancs comme la barbe, s'échappaient du capuchon. Le second moine avait tout au plus 23 ou 24 ans. La corde qui serrait son froc autour de ses hanches dessinait à merveille la cambrure hardie de sa taille, svelte et souple. Il marchait d'une allure vive et décidée, tête nue, ses cheveux blonds au vent, brandissant par instants son bâton comme une épée, au lieu de s'en servir comme d'un point d'appui, ainsi que le faisait son compagnon. Sans doute, à en juger du moins par le feu de ses regards et par la vivacité de ses mouvements, ce jeune homme était un novice, un peu contraint dans sa vocation, et joyeux d'échapper pour quelques heures à l'existence monotone, à l'ennui régulier, à la froide et rigide suggestion du cloître. La route était absolument déserte. Depuis que les bons religieux, si différents d'âge et de tournure, avaient quitté Beaufort, ils n'avaient pas fait la rencontre d'un être vivant. Nous devons ajouter qu'ils n'avaient pas échangé une seule parole. Quoi de plus simple en apparence que deux moines s'en allant ainsi de compagnie, en plein jour par les grands chemins? Peut-être regagnaient-ils leur couvent? Peut-être étaient-ils chargés de faire une quête pour les besoins de leur ordre? Peut-être le prieur de leur abbaye leur avait-il donné mission de transporter quelques messages, écrits ou verbal, pour un prieur de sa connaissance? Rien n'était plus fréquent malgré la guerre que de rencontrer ainsi des moines courant la campagne. Le danger de tomber dans une embuscade et d'être pris par l'ennemi se bornait pour eux en réalité à fort peu de choses. Les maraudeurs de tous les partis savaient d'avance qu'ils ne trouveraient dans leur poche qu'une bourse plate, ou plutôt qu'ils ne trouveraient pas de bourse du tout, et leur humble défroc tentait médiocrement les pillards les plus décidés. Et cependant, si quelque observateur invisible avait suivi les deux religieux, il aurait remarqué tout à coup un fait très minime en apparence, fort important en réalité, et qui eût ouvert un continent, un champ vaste aux conjectures de toutes sortes. Nos moines, toujours rapides et toujours silencieux, arrivèrent à un endroit où la route, depuis quelque temps encaissée, faisait un coude brusque. À 200 ou 300 pas de ce coude, on voyait des voitures chargées de grains et de fourrage, et une demi-douzaine de grands bœufs, se dirigeant du côté de Beaufort, sous la garde d'une petite troupe de paysans armés jusqu'aux dents et portant avec une gaucherie manifeste des mousquets rouillés et des rapières du temps de Charlemagne. Tout aussitôt, il se fit un changement subit et bizarre dans la tournure et dans la démarche du vieux moine. Jusqu'à ce moment, il avait tenu la tête haute et il avait marché d'un pas assuré, et sa taille semblait aussi droite que celle de son jeune compagnon. Dès que les paysans furent en vue, son pas se ralentit. Son épine dorsale se courba, ses genoux se ployèrent, une sorte de tremblement agita ses membres. Il s'appuya sur son long bâton et il n'avança plus qu'avec peine, en remuant doucement la tête comme font les vieillards parvenus à un âge très avancé. Tout à l'heure, ce pouvait être un homme de 60 à 70 ans, vigoureux encore et bien conservé malgré ses rides profondes. Maintenant, c'était un centenaire débile et chancelant. Le moine avait vieilli de 30 ans en une minute. En vérité, ceci tenait du prodige, et cependant le jeune homme ne semblait pas étonné le moins du monde de l'incroyable métamorphose qui venait de s'opérer sous ses yeux. Paysans et religieux, chacun de son côté, avançaient les uns vers les autres. Ils finirent par se rencontrer. Les paysans se rangèrent sur le bord du chemin, ôtèrent leurs larges chapeaux
et sollicitèrent la bénédiction du saint vieillard.
« Je vous bénis de tout mon cœur, mes enfants, » leur dit-il d'une voix tremblotante et cassée. « Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. »
« Mon père, » demanda l'un des paysans, « priez le bon Dieu, s'il vous plaît, de permettre que nous ne rencontrions d'ici à Beaufort ni gris, ni suédois, ni français. »
« Je vais réciter mon rosaire à cette intention, mes enfants, et j'espère que le bon Dieu exaucera ma prière. »«
Merci, mon père. » »«
Allez en paix, mes enfants, allez en paix. »
Puis, après ces quelques paroles échangées, les moines et les paysans se remirent en marche en se tournant le dos. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés les uns des autres pour s'être complètement perdus de vue, une seconde métamorphose s'opéra dans la personne du vieillard. Métamorphose non moins brusque et non moins surprenante que la première. Sa tête baissée se releva, sa taille courbée se redressa, ses jambes chancelantes reprirent leur vigueur primitive, et sa marche ralentie s'accéléra de telle sorte que son compagnon fut obligé de multiplier les enjambées pour ne point se laisser dépasser. Au bout d'un quart d'heure, l'étrange religieux s'arrêta.
« Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose tout là-bas, dans le brouillard ?» demanda-t-il.
« Oui. Des chaumières, n'est-ce pas ?»«
Je le crois. » »«
Ce doivent être les premières maisons du village de Sainte-Agnès. » »«
Le traverserons-nous ?»«
Non, puisque nous pouvons l'éviter. »
Qu'allons-nous faire?
Quitter la route et nous lancer à travers champs sur la droite.
Où cela nous mènera-t-il?
Si mes souvenirs sont exacts, et je crois qu'ils le sont, nous devons trouver d'ici à 10 minutes un sentier qui conduit à Condamine.
Allons!
Ils abandonnèrent la route, et en effet, au bout d'un petit nombre de minutes, ils rencontrèrent le sentier dont le vieillard venait de parler. Ils le suivirent sans prononcer une parole, et en moins d'un quart d'heure, ils atteignirent Condamine. Au moment d'entrer dans le village, le vieux moine dépouilla ses allures franches et rapides et sembla ne pouvoir marcher qu'avec une extrême difficulté, en se soutenant d'un côté sur son bâton et en s'appuyant de l'autre sur le bras du jeune homme. Ce dernier avait toutes les peines du monde à s'empêcher de sourire en voyant la vénération profonde et les manifestations respectueuses avec lesquelles les pieux villageois accueillait cette bizarre comédie. Le village de Condamine fut traversé sans autre incident que quelques bénédictions distribuées à droite et à gauche. Les religieux atteignirent bien vite la frontière de la Franche-Comté et de la Bresse française, et ils la suivirent pendant quelque temps, guidés par la parfaite connaissance du pays que semblait avoir le vieux moine, car aucun sentier frayé ne s'offrait à eux, et ils traversaient une plaine immense et fangeuse, n'ayant d'autres limites apparentes que l'horizon et présentant à la surface une boue épaisse et gluante dans laquelle ils enfonçaient jusqu'à mi-jambe, ce qui, pour n'avancer que bien lentement, exigeait de leur part une prodigieuse dépense de force.
« Quelle affreuse contrée !» s'écria tout à coup le jeune homme. « Vous préférez la montagne, n'est-ce pas ? » demanda le vieux moine.
« Certes, et vous avez 100 fois raison. La montagne est aride et froide. Le rocher semble sans cesse y dévorer la terre et la rendre infertile, mais du moins elle a sa sauvage grandeur qui charme les yeux et qui plaît à l'âme. L'air qu'on y respire est pur. On y vit pauvre, mais on y vit fort. La Bresse est riche au contraire, mais triste jusqu'à la mort. Ses plaines fertiles recèlent des marais empoisonnés. Le fantôme pâle de la fièvre veille sans cesse au chevet de la couche de ses débiles habitants.
En ce moment, le jeune homme poussa une exclamation de colère, accompagnée d'un juron nettement accentué qui s'accordait fort mal avec son vêtement religieux. Il venait de s'embourber jusque par-dessus les genoux et il lui fallut l'aide du vieillard pour se tirer de ce mauvais pas.
« Ah ça, mais, » demanda-t-il alors, « il n'y a donc pas une seule route dans ce pays d'enfer ?»«
Il y en a fort peu et nous les évitons avec soin. L'armée française est campée tout près d'ici. Bientôt nous serons au but. Marchons, marchons, l'heure nous presse. »
Le jeune homme poussa un soupir involontaire et recommença à lutter héroïquement contre la boue, toujours précédé par son compagnon. Bientôt ils atteignirent une petite éminence qu'ils gravirent. Alors, la silhouette aiguë d'une tour,
dominant d'autres bâtiments d'une imposante apparence, sembla saillir de la plaine et leur apparut dans la brume, à l'horizon, de l'autre côté d'un bois de médiocre grandeur.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda le jeune moine.
« C'est Blétherand. »
« Et nous y serons ?»«
Dans une heure. »
Jusqu'à ce moment, notre voyage a été singulièrement heureux.
On eût dit que les bénédictions prodiguées par moi le long du chemin retombaient sur nous.
Il s'agit de finir avec autant de bonheur que nous avons commencé.
Si les renseignements que l'on m'a donnés sont exacts, le bois dans lequel nous allons entrer n'est point occupé par les troupes françaises. Le camp s'étend sur la gauche, depuis Villevieux jusqu'à Montmoreau, près de Lons-le-Saunier. Je commence à espérer que tout se passera comme je le souhaite. Les deux moines s'enfoncèrent dans le bois et le traversèrent sans avoir rencontré une âme. À sa sortie, ils virent devant eux un vaste espace découvert, se déroulant jusqu'au rempart du château de Blétherand et coupé seulement par un second bois de peu d'étendue. Le soleil venait de disparaître à l'horizon, derrière un rideau de vapeur épaisse qu'il teignait d'une pourpre sanglante. Le crépuscule allait venir. En ce moment, le beffroi de la citadelle sonna 5 heures. Immédiatement après le dernier coup de cloche, il se fit un grand mouvement sur les remparts. On entendit des batteries de tambours et des sonneries de clairons, et le pont-levis, baissé jusqu'alors, se releva.
« Oh, oh !» fit le vieux moine. « Voici qui va mal. Nous arrivons trop tard. »«
Que faire ?»«
Allons toujours. » Et il s'engagea dans l'espace découvert qui s'étendait entre le bois et le château et que coupait vers la droite le second petit bois dont nous venons de parler. La plaine était déserte. Au loin se voyaient les premières tentes du camp français. Sur les remparts, les sentinelles allaient et venaient et quelques soldats désœuvrés, s'accoudant sur les créneaux, regardaient au loin. Le vieux moine, le dos plus courbé et les jambes plus vacillantes que jamais, se dirigeait, suivi de son compagnon, vers la grande porte dont le pont-levis venait d'être relevé. Pour atteindre cette porte, il fallait passer à une portée de mousquet de l'angle du petit bois. Mais le moyen de craindre que ces quelques bouquets d'arbres, disséminés sur un espace de 150 ou 200 toises, recélassent un péril quelconque. Aussi, les moines allaient-ils d'un air tranquille et comme des gens parfaitement assurés qu'ils n'ont rien à craindre. Les sentinelles s'arrêtaient dans leur marche monotone pour les regarder, avec ce sentiment de vague et instinctive curiosité qui pousse à chercher des distractions dans l'incident le plus futile. Mais voici que tout à coup, cette curiosité est une pâture sur laquelle elle ne comptait guère. Une vingtaine de soldats, portant l'uniforme de l'armée française, bondirent hors du petit bois comme une meute de démons et se ruèrent vers les moines. Ceux-ci essayèrent de s'enfuir. Mais le plus vieux fut trahi par ses forces, et le plus jeune ne voulut pas, sans doute, abandonner son compagnon. Les soldats enveloppèrent les deux religieux. Une lutte s'ensuivit. Elle ne pouvait être longue. Le vieillard, renversé, foulé aux pieds et frappé par le pommeau de 20 rapières, fut laissé pour mort sur la place. Le jeune homme, écrasé par le nombre, malgré sa résistance désespérée, eut les mains attachées derrière le dos et fut poussé brutalement en avant du côté du bois. Il refusa de marcher. Plusieurs soldats le soulevèrent alors, et, faisant avec leurs bras et leurs épées une sorte de civière sur laquelle il fut placé, ils disparurent avec lui dans le taillis.